Alors, je ne sais pas si vous avez pris la Jonasite, mais ça fait trois messages qu'on a déjà donnés, l'introduction au livre, chapitre 1, chapitre 2, et on est au chapitre 3. Et sans plus tarder, mais on va prier, alors, si vous voulez bien, on va prier. Notre Père, conduis nos cœurs, nos pensées en toi. Permets-nous d'oublier tout ce qui nous pourrait nous déranger. Ce qui serait contraire à ta volonté, venant de la chair ou du monde ou du diable, afin que nous puissions avoir la liberté de regarder à toi et seulement à toi. Merci Père de ta patience envers chacun de nous, de ta bonté, ta miséricorde et ton pardon. Nous te prions Seigneur, je te prie ce matin, pour tous ceux qui sont éloignés géographiquement, peut-être en déplacement ou qui souffrent à la maison, pensons à notre sœur Ulrich, merci de la recouvrir après son opération. Merci d'être avec tous ceux qui auraient aimé être là ce matin, mais qui pour différentes raisons ne peuvent pas être là. Sois avec eux, tendre Père, et que nous puissions rester toujours unis ensemble et te bénir et te louer. Merci Père de nous accorder ce temps dans ta parole de façon qui est si précieuse, Seigneur, et ta parole et ce temps. Merci Père de ce que tu vas agir encore et cache-moi, Seigneur, pour que toi tu sois vu, que Jésus-Christ soit exalté, que Dieu soit reconnu vrai et que nous marchions humblement avec lui. Au nom de Christ. Amen. Je vous invite à prendre donc vos Bibles et à regarder chapitre 3. On a donc déjà vu chapitre 1, chapitre 2. Vous connaissez l'histoire de Jonas, un serviteur de Dieu, appelé à aller prêcher la repentance, un message de jugement à une ville, une grande ville, Ninive, et qui refuse de partir. Jonas va à Ninive, non. Jonas va à Ninive, non. Et puis, il trouve un billet pour aller à Tarsis. Tiens, il a l'argent pour partir, il va loin. Et Dieu, finalement, envoie une tempête sur la mer. Le bateau est secoué, les marins finalement tirent au sort, trouvent le coupable, Jonas, au fond de la cale, en train de dormir, même plus capable de prier. Les autres prient pour être délivré, lui il dort. Et puis il se fait jeter par-dessus bord. Et finalement il y a un grand poisson, on ne sait pas si c'est une baleine ou un grand requin qui vient le prendre. On a vu ça l'autre dimanche. Et qui le rejette sur le bord de la mer, de la plage, exactement à l'endroit où il était parti. C'est étonnant comment Dieu nous ramène des fois aux endroits même où nous avons échoué pour nous faire comprendre que lui peut donner la victoire et nous faire aller de l'avant. C'est incroyable comment le Seigneur agit en nous, avec nous, et puis de sa patience. Imaginez un poisson qui avale un prophète, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, Jonas ne voulait pas y aller parce qu'en fait, certainement, il n'avait pas la vision de Dieu, de l'amour, le pardon, la miséricorde avec un peuple qui était cruel, on en reparlera tout à l'heure. Et puis finalement, il se retrouve à la case de départ, après que l'Éternel, verset 11 du chapitre 2, parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je pense qu'il n'a jamais été le même pour le restant de sa vie. Vous vous imaginez dans un poisson, 3 jours et 3 nuits, et ressortir, être vomi comme ça, dire « Oh !» Je pense que la leçon a été assez sévère pour lui. Et parfois, les leçons de Dieu dans nos vies sont assez sévères aussi, parce que nous sommes durs d'entendement et nous avons besoin d'accepter les plans de Dieu et la façon avec laquelle Dieu agit. Alors on lui donne gloire, on lui donne gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa fidélité envers nous. Alors Jonas chapitre 3, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qui crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alors, on va regarder un petit peu en arrière, juste quelques secondes. On a vu que le plan du livre, chapitre 1, la fuite de la volonté de Dieu, chapitre 2, la soumission à la volonté de Dieu, chapitre 3, l'accomplissement à la volonté de Dieu, et chapitre 4, le questionnement de la volonté de Dieu. C'est un plan pris sur les commentaires de la Bible de John MacArthur, et ça m'a paru pertinent. On a vu ensemble, par contre, la fuite loin de la volonté de Dieu, le mandat de Jonas, le sauve qui peut de Jonas, la poursuite de Jonas. On a vu que Jonas... Excusez, aller en arrière peut-être. Juste un moment, là, ça nous donne une idée quand même. Jonas était par ici, à Joppé. Dieu lui demande d'aller à Ninive, à peu près 800 km. Et Jonas, lui, ben, il prend un bateau, puis il va aussi loin que possible, même la car n'y va pas, du côté d'Espagne, au sud. C'est vrai que le sud de l'Espagne, c'est agréable quand même. Hein? Je comprends un peu ça. Mais quand on a un mandat de Dieu, est-ce qu'on peut aller prendre des vacances? Enfin, plutôt fuir loin de la face de Dieu. Et finalement, ben, Jonas, voilà, je ne sais pas si ça marche plus, c'est pas grave, revient à Joppé. Et puis, de là, on ne sait pas s'il est dans le temple, vu le vœu qu'il a fait dans sa prière au sein du poisson, du vent du poisson. Enfin, il est peut-être dans le temple. Ce n'est pas exactement où il est, ce n'est pas dit. Dieu s'adresse à lui. Alors, Ninive, c'est une très grande ville. On a parlé du triangle. Les archéologues ont retrouvé cette grande ville. On va en reparler puisqu'il y en a des questions dans le texte. C'est juste un rappel ce matin. Et en fait, c'était une grande ville où il y avait 120 000 habitants. Et c'est une ville qui a été détruite par la suite, selon la prophétie du prophète Nahum, chapitre 3. On y reviendra dans un instant. Mais c'est une agglomération importante, une grande ville avec des villes alentours, on pourrait dire banlieue. Ce qui fait que Jonas, effectivement, a dû parcourir la ville un certain nombre de jours pour annoncer le message de Dieu. Alors, on a déjà vu ça ensemble au chapitre 2. Et tout simplement, nous allons regarder à l'instant, selon ce plan, le passage de Jonas, chapitre 3. Voilà, mes notes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ici, c'est une seconde fois que Dieu parle à Jonas. Le message est clair, la parole est claire. En fait, Jonas a fui, mais il avait très bien compris le message de Dieu la première fois. Et il faut dire que c'est pareil pour nous. Nous pouvons entendre clairement la parole de Dieu, ce qu'il entend de nous, ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, et puis ne pas faire sa volonté. Mais Dieu est bon. Et ce n'est pas comme dans le monde suite à des échecs humains où il n'y a pas une seconde chance. Dans le monde de notre société, la seconde chance n'est même pas envisagée ou envisageable. Mais Dieu, dans sa bonté, est le Dieu de la deuxième chance. Mais non, il faut être sauvé sur terre. Il n'y a pas une deuxième chance après la mort, parce que là, on entre dans l'éternité. Mais pour nous, les enfants de Dieu, appliquons cela à nous, les enfants de Dieu, il y a une seconde chance dans nos vies. Et Dieu tire gloire, parfois même de nos échecs, parce qu'il a un plan pour nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu a un plan de bonté, et puis d'éducation, parce que Dieu est un Dieu qui nous forme. En fait, j'ai trouvé dans la Bible 5 exemples de la seconde chance. Pour regarder ça ensemble, le Dieu de la seconde chance, Jacob. Vous lisez un petit peu la vie de Jacob. Jacob était un homme rusé, qui s'est fait avoir à son tour. Mais c'était un homme qui a failli dans bien des domaines, on n'a pas le temps de développer cela ce matin, jusqu'au jour où un homme, alors qu'il est en face d'Ésaü, vous savez, il a volé le droit d'aînesse à son frère, c'était un rusé, mais et puis là il a compris que face à son frère, qu'est-ce qui allait se passer? Il avait vraiment la crainte et il s'est finalement humilié parce que Dieu l'a combattu. Et Dieu lui a montré que ce n'était pas par ses forces et ses calculs de mettre d'abord les troupeaux, puis les femmes, les enfants, et lui après, n'est-ce pas, il avait toute une stratégie pour rencontrer son frère et espérer son pardon. Mais il avait oublié une chose, il ne savait pas encore qui était Dieu. Il a dû faire un face-à-face avec Dieu afin d'être transformé pour pouvoir rencontrer son frère. Oui, il avait failli avec son frère. Et Jacob, Genèse 32, 30, est écrit, « Appela ce lieu le nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Pour ne pas dire transformée. Et parfois, Dieu permet des échecs dans notre vie où on est assez brisé, où la seule solution, c'est d'accepter sa main sur nous pour voir les choses comme Dieu le voit. Voir Dieu transforme les situations. Voir Dieu nous transforme, et parce que Dieu nous transforme, alors on voit les autres et on voit les situations de façon différente. Est-ce qu'on n'a pas besoin de cela, nous aussi? Mais Dieu est le Dieu de la deuxième chair, même je dirais de la troisième, quatrième pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Ensuite, David. David est un homme de guerre qui était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui a commis l'adultère et qui s'est repenti dans le psaume 51. C'est un homme qui a écrit le psaume 23, le psaume 32, des psaumes extraordinaires, et le psaume 51 de la repentance. Mais si Dieu ne lui avait pas donné une deuxième chance, on ne pourrait pas lire ces chapitres. Des psaumes merveilleux où Dieu parle au travers de David. David aussi a eu sa seconde chance. Pierre a renié le Seigneur. Moi, Seigneur? Et puis, c'est lui qui a renié le Seigneur. Mais le Seigneur ne l'a pas renié. Et en Jean chapitre 21, on voit que Jésus s'adresse à lui et lui demande de paître ses brebis. Il le rétablit comme berger. Et Pierre a eu un échec terrible dans sa vie. Il a renié le Seigneur et le coq a chanté. Mais Pierre a eu une deuxième chance pour servir le Seigneur. Il paraît, même si l'histoire qui le dit, qu'il a été crucifié la tête en bas pour pas être crucifié comme son sauveur, pour honorer Dieu ainsi. Jean-Marc, un des missionnaires, n'est-ce pas, qui a écrit après l'évangile de Marc. Jean-Marc, il était avec Paul, avec Barnabas, et puis à un moment donné, il y a eu une dissension entre eux, puis Paul a dit non, Jean-Marc, Marc, il a failli, donc on ne le prend pas avec nous pour continuer notre chemin missionnaire. Et finalement, ben, Barnabas n'était pas d'accord. Certainement, Paul avait raison de voir certaines faiblesses ou peut-être manque d'expérience ou autre de Marc, mais il ne voulait pas continuer avec lui. Mais Barnabas, lui, voulait lui donner encore une chance. En tout cas, c'est Dieu surtout qui lui a donné une deuxième chance. Et Paul, après, dit ceci dans un des textes, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il est utile pour le ministère. » Même Paul a changé d'avis, parce que Marc a eu une deuxième chance de la part de Dieu. Et puis, le cinquième exemple biblique, ben, c'est chacun d'entre nous, je pense. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. « Éternel, fais-moi revenir vers toi. » C'était le cri du psalmiste. Et chacun de nous, nous avons vécu, nous vivons des moments où on est obligé de se mettre à genoux et de crier à Dieu, soit le soir tard, le matin de bonne heure, parce que nous avons besoin de revenir vers Dieu, nous avons besoin de nous rattacher à lui, d'abandonner un péché ou la vie de la chair, ou d'être loin de la volonté de Dieu, et nous avons besoin de retourner vers Dieu. En fait, il y a toujours un temps pour retourner vers le Seigneur et accomplir sa volonté. Satan souvent nous fait croire par nos émotions ou des pensées que non, on a le temps de revenir vers Dieu ou c'est trop tard ou ça ne marchera pas. Mais Dieu écoute la prière du cri du désespéré ou du croyant qui veut s'attacher à Dieu, retourner vers lui. Parce que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et c'est comme ça que Jonas, à nouveau visité par la deuxième chance, c'est sûr que là c'est assez... secouant pour lui, après tout ce qu'il a vécu dans le ventre du poisson, « Lève-toi, va à Ninive. » Et c'est exactement ce que Dieu lui avait dit précédemment. Au verset 2, chapitre 1, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Il avait vraiment donné le sens du message à Jonas. Jonas n'a pas voulu y aller. Ce n'est pas qu'il n'était pas capable de prêcher ce message, mais c'est vrai que nous, parfois aussi, peut-être pas dans le même style et compréhension des réactions de Jonas, mais on a du mal à prêcher un message de jugement. Et pourtant, parfois, ben, il faut se lever et dire, oui, il y a danger. Comme notre frère a prié dans sa prière, il y a un danger après la mort éternelle. Hein. Et c'est long l'éternité. Alors on a un message à communiquer, il faut être courageux pour le faire. En tout cas ici, Jonas se leva, hein, verset 3. Là, il a obéi. Et je me suis demandé, mais que serait-il passé, on a le droit de se le demander, si Jonas n'avait pas obéi? S'il avait pris, s'il avait encore dans sa poche quelque argent pour prendre un deuxième ticket pour Tarsis. Ou peut-être alors Dieu aurait envoyé un autre poisson, ou alors il aurait envoyé un autre prophète. En tout cas, une chose certaine, c'est que dans sa souveraineté, Dieu voulait accorder la repentance à Ninive. Et Dieu veut accorder encore la repentance. Autour de nous, il y a des milliers qui se perdent, et Dieu veut accorder la repentance. J'aimerais que vous puissiez tourner dans vos Bibles en Genèse chapitre 10, faire un rappel de la Genèse, en fait, l'origine de la ville de Ninive. Genèse chapitre 10, et versets 8 à 12. On a ici une généalogie de la famille de Noé, et verset 8 est écrit « Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assar, il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Calac. » Donc vous voyez, c'est un descendant de Noé qui s'appelait Assur, qui a bâti la grande ville, la ville de Ninive, qui s'est développée. Et en fait, la ville avait disparu. Et c'est en 1845 qu'un archéologue du nom de Layard, qui était en fait un Français, a retrouvé les ruines de cette grande ville de 120 000 habitants. Une grande ville, on pense que la circonférence est à peu près de 100 km. Alors j'ai fait le calcul, je me suis souvenu de la petite formule mathématique de Pierre. En fait, vraisemblablement, le diamètre de la ville faisait à peu près, de part en part, on va dire, ce triangle qu'on a eu tout à l'heure, c'est une trentaine de kilomètres. Donc là, il est question que Jonas a parcouru la ville, a fait d'abord dans la ville une journée de marche. Il a certainement traversé la ville. En tout cas, on peut dire vraisemblablement qu'il a parcouru une trentaine de kilomètres. Mais ce qui est possible, évidemment, pour un homme, de parcourir ce nombre de kilomètres par jour, on dit 6 kilomètres par heure, donc il a prêché, il s'est arrêté, il a marché, enfin, il a eu toute une journée de marche en train de prêcher le même message, on le regardera tout à l'heure. Donc les fouilles ont effectivement retrouvé la ville de Ninive, mais c'est bon de le savoir, parce que longtemps on a douté que cette ville avait existé. En fait, elle a été détruite en 612 avant Jésus-Christ, complètement détruite. Ça me fait penser, je vous le lis, parce que c'est quand même une relation qu'on trouve, une analogie avec un roi, et chapitre 21, et verset 29. Il est écrit, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » On voit ici un jugement reporté. Et Ninive a eu aussi plus tard un jugement, puisqu'ils sont malheureusement revenus vers leur mauvaise voie après qu'ils se soient repentis. Alors, quel était le message du prophète? Le message du prophète est clair, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Je pense d'abord que Jonas a dû surmonter sa propre volonté, puis ses préjudices pécheurs, de l'incompréhension qu'il avait de la volonté de Dieu pour aller prêcher à Ninive. Parfois, Dieu nous pousse à aller prêcher. Et Dieu veut nous apprendre, à nous, les enfants de Dieu, à prêcher l'Évangile à tout le monde entier, sans distinction de personne. Je me souviens le jour où j'avais fait un nouveau chrétien, un séminaire sur la prière ou autre, en Provence, à Aix-en-Provence, et il y avait une dame qui avait témoigné, et ça m'avait bouleversé. une femme missionnaire à Marseille, qui témoignait auprès des prostituées et qui a mené des prostituées au Seigneur, qui les cachait à cause de tout le problème des réactions des proxénètes, etc. Mais quel amour pour aller témoigner à des prostituées et les amener au Seigneur. Et ces femmes-là se convertissaient. Mais voyez, elle avait un amour qui était au-delà des préjugés sociaux et autres, et moraux, pour pouvoir amener quelqu'un au Seigneur. Je me souviens de quand j'étais à l'école biblique à Paris, notre pasteur nous envoyait de temps en temps les jeunes de l'école biblique faire nos armes et parler et prêcher ici et là. Et avec un copain, on allait parler à des SDF. C'était un pasteur algérien qui s'appelait le pasteur Mokhtar, qui recevait chez lui, dans sa propre maison. Il avait une salle avec des bancs et il avait récupéré des tables d'école, vous savez, en long comme autrefois. Et là, on leur donnait la soupe, et puis que de temps en temps, il y avait quelqu'un qui venait prêcher. Et je me souviens, on mangeait la soupe, et la cuillère était attachée avec un fil au banc, parce qu'il paraît que les SDF piquaient les cuillères. Donc on avait toujours sonné, mais on prêchait l'évangile. Et cet homme avait consacré sa vie par amour du Seigneur pour atteindre les SDF. Et alors, il y aurait mille et un exemples, je pense, dans nos vies, où parfois on juge les gens selon leur apparence. Mais l'amour de Christ devrait nous pousser bien au-delà de ces préjugés, parce que Dieu a un message d'amour pour chacun. Et nous devons prêcher cela de tout notre cœur. Je trouve que le message de Jonas ici, c'est un message de miséricorde. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Dieu donne le temps. Mais attention, quand Dieu parle et qu'il demande quelque chose et qu'il donne un délai, c'est sérieux. 40 jours et Ninive est détruite. 40 jours. Dieu était prêt encore d'attendre 40 jours pour donner le temps aux hommes de Ninive et aux femmes de se repentir. Dieu use de patience, hein, afin que le Seigneur atteigne les cœurs. Mais cela est bon, agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la vérité. Mais Dieu est patient dans ce monde. Mais un jour, il dira, c'est fini. L'arche, un jour Noé, dans son arche, a fermé la porte. Il y a eu le déluge sur la terre. Et Dieu a jugé le monde. Un jour, il sera trop tard. L'arche du salut, la bénédiction sera arrêtée et les jugements de Dieu vont tomber parce que la porte va se fermer et nous devons entrer dans l'arche du salut, n'est-ce pas, qui est offert encore aujourd'hui gratuitement. Mais il y a un temps de Dieu qui devient un temps de jugement et il donne à l'homme le temps de se repentir pour se convertir, de se détourner de ses mauvaises voies. Je pense qu'il y a un temps. Et le temps de Dieu, lorsque Dieu dit 40 jours, c'était vraiment sérieux et précis. Dieu ne joue pas avec sa volonté. Et parfois, je pense que les hommes, et nous pouvons nous y intégrer dedans, on joue avec la volonté de Dieu, le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, c'est pensé, mais c'est sérieux. Pourquoi Dieu voulait-il juger cette ville? Il est écrit au verset 2, je l'ai lu tout à l'heure, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Je l'ai déjà dit, mais les Assyriens étaient devenus des gens extrêmement violents, particulièrement envers leurs prisonniers. Ils leur coupaient les mains, ils leur coupaient les pieds, ils leur crevaient les yeux, et tenez-vous bien, pour certains prisonniers, ils les écorchaient vifs pour ensuite les suspendre sur les murs de la ville. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Au travers des siècles, l'histoire nous apprend que les hommes sont capables de telle cruauté d'une manière ou d'une autre. C'est terrible, n'est-ce pas, le cœur de l'homme, sans Dieu, éloigné de Dieu. Et Dieu donna 40 jours à Ninive pour se repentir. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Ça fait penser au jugement des grandes villes, notamment Sodome et Gomorre, qui étaient connues pour sa perversion sexuelle. Et Dieu, un jour, a fait tomber le feu et le soufre sur cette ville. Parce que Dieu voulait juger l'état moral de cette ville. Même Jérusalem fut châtiée. Je vous lis ce que disait Jérémie en chapitre 9, versets 11 à 14. « Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit? Brûlé comme un désert où personne ne passe. » L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi. que j'avais mises devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals comme leurs pères le leur ont appris. » Au travers de l'histoire, on voit des villes antiques, n'est-ce pas, qui ressemblent beaucoup à nos villes modernes, qui disparaissent de la carte, qui sont comme dans la chute des grandes civilisations, n'est-ce pas. Il a été prouvé scientifiquement que les chutes des grandes civilisations ne dépendaient pas au fait qu'il y avait un manque de progrès scientifique, ou dans la médecine, ou dans la philosophie, enfin, si on peut parler ainsi, mais c'était surtout dû à une dégradation des mœurs qui a mené les chutes des civilisations. Et Dieu a permis que des grandes villes, des sociétés, des civilisations soient châtiées à cause du péché. À cause du péché. Je ne sais pas vous, quand vous pensez au jugement d'une grande ville, à quelle ville pensez-vous? Dans l'Apocalypse, je vous le lis, Apocalypse chapitre 18, verset 4, il est écrit: « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Écoutez bien ce que dit Dieu au sujet de Babylone. « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Et au verset 10, je vous le lis, est écrit: « Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront... » Ça, c'est un jugement à venir sur une grande ville, Babylone. « Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville... » C'est les habitants de la terre, hein. « La grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. » Ça fait réfléchir, cela. Ça fait réfléchir. Vous allez, mais c'est exceptionnel, vous allez me donner une seconde, il faut que j'aille chercher un livre dans ma bibliothèque. Je ne plaisante pas, que j'oublie de pas, j'ai une illustration à vous donner. Ça vous va? J'ai jamais fait ça de ma vie, un prédicateur qui quitte, qui dit je reviens. Bon, vous avez le droit de faire une pause, je reviens.
Merci.
Tout à l'heure, merci. Voilà. Eh bien, vous dire que finalement, Jérémie lui aussi avait un message négatif. On n'aime pas trop donner des messages négatifs, en fait. J'aimerais vous lire voilà, ce livre, « La mort dans la cité » de Francis Schaeffer, page 56. En premier lieu, il y a de toute évidence des époques, et la nôtre se compte parmi celles-ci, où un message négatif s'impose. Si l'on veut pouvoir ensuite édifier quoi que ce soit, il faut commencer par le message du jugement, c'est-à-dire pour arracher et abattre. Bon, c'est peut-être vous avez connu ce livre de Francis Schaeffer, La mort dans la cité. Je veux tout simplement dire que quand nous amenons une âme au Seigneur, il y a un point crucial. C'est le moment où Dieu enseigne à la personne qu'elle est pécheresse, mais qu'elle est perdue. Vous parlez à des gens, la plupart des gens reconnaissent, oui, je suis pécheur. C'est difficile de dire qu'on n'est pas pécheur. Mais de reconnaître que parce que j'ai péché, je suis perdu, selon la loi de Dieu, ça c'est le point crucial. Parce que c'est dans la mesure où on se reconnaît perdu qu'on peut être sauvé. Tant qu'on est à moitié perdu, tant qu'on n'est pas totalement perdu, on ne fait pas appel à Dieu. Et donc, dans l'évangélisation personnelle ou collective, peu importe, on a un message qui est négatif. On est obligé de dire aux gens qui ne sont pas si beaux que ça, qui ne sont pas si intelligents que ça, même qui sont sans intelligence spirituelle et qui sont perdus, sans Dieu, sans espoir, et que s'ils devaient mourir sans recevoir Jésus-Christ dans le cœur, ils seraient perdus pour l'éternité. Alors, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Mais à partir du moment où on se voit perdu, il y a une chance qu'on réclame et qu'on crie vers Dieu d'être sauvé. C'est le point crucial dans l'évangélisation personnelle. Qu'est-ce qui est arrivé à Ninive? C'est quand même assez extraordinaire. Regardons le passage. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne. les gens de Ninive crurent à Dieu. Le message a eu une réaction immédiate et positive. Si le message était négatif, la réaction là est positive dans le sens qu'ils crurent. Le mot-clé ici, c'est « crurent ». Pourquoi y a-t-il eu un réveil à Ninive ? Parce que les gens ont cru. Certainement, Dieu avait préparé leur cœur. Et Jonas est arrivé, Jésus a dit en Luc 11, 30, « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Dans le sens qu'on pense que Jonas, la plupart des commentateurs de Jonas, du livre de Jonas, mentionne et souligne le fait que Jonas est arrivé certainement dans la ville avec un état physique particulier. On a regardé ça en Jonas chapitre 2. Vraisemblablement, on a déjà trouvé un homme comme ça après 48 heures dans un ventre d'un grand poisson. On l'a retrouvé vivant. On payait un shilling à Londres au musée pour aller le voir. Alors il n'avait plus de cheveux. Sa peau était devenue tachetée et jaunâtre. Et donc cet homme-là, Jonas certainement s'est pas laissé et pas passé inaperçu. Il était comme un signe. Mais ces gens-là ont cru à tel point que même le roi est bouleversé. Ce qui est étonnant, c'est que les gens croient même avant que les autorités ne croient. Et puis le roi croit. Et en fait, le vrai réveil, et un réveil qu'on pourrait espérer en France et dans d'autres pays, c'est un réveil qui touche toutes les couches de la société, où les gens voient Dieu. Les gens n'ont pas attendu le décret du roi qui publie un jeûne pour se repentir et se mettre à jeûner. Ils ont cru à la parole de Jonas, parce qu'ils ont associé la parole de Jonas à la parole de Dieu. Jonas parle, mais c'est Dieu qui parle. Et ainsi, ils se sont convertis. Ils se sont humiliés. Ils se sont humiliés à tel point que même ils ont associé les animaux dans leur jeûne. C'est dans le monde ici sémitique, il y a souvent une association des animaux aux cérémonies. Ce matin de bonne heure, j'ai entendu mon chat miauler. C'était une belle illustration d'entendre des cris. Certainement, les hommes et les femmes de Ninive ont crié de tout leur cœur. Et ils ont imploré Dieu pour leur pardon parce qu'ils savaient qu'ils allaient être jugés. Mais les hommes, non seulement ont jeûné, mais les animaux aussi. Puis mon chat, tous les jours, il miaule à la porte. Et puis il y a des matins, et c'était ce matin de bonne heure, il miaulait, ça résonnait dans l'entrée, il avait faim. Imagine, Loïs, qu'on ne le nourrit pas pendant plusieurs jours. Bon, il irait peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais un animal qui a faim, il le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont même associé les animaux pour vous montrer l'envergure du réveil. Et le roi se repent. Il s'humilie personnellement. Alors regardez ce qui est écrit ici. Il crie, la chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Écoutez, il faudrait demander à nos chefs politiques de temps en temps de faire la même chose. Parce qu'ils ont besoin aussi de se repentir, de se convertir. Hein. Le roi ici a été tellement touché. Certainement le cœur était préparé. On ne sait pas trop exactement comment le Seigneur a préparé leur cœur. Certainement par une conviction profonde de péché, qui est l'origine, n'est-ce pas, d'un vrai réveil spirituel. Mais le roi lui-même s'humilie. Il s'humilie personnellement. Et puis il publie un jeûne dans toute la ville, avec ses grands, c'est-à-dire les nobles, les autorités. Le réveil prend, saisit tout le monde. Et finalement, il y a cette publication, un jeûne dans toute la ville, bête et homme, un appel à l'humiliation. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence. Donc ils étaient convaincus de péché, qu'il fallait se détourner des mauvaises voies. Le réveil dans nos vies, c'est quand on est convaincu qu'on doit se détourner du péché pour suivre Dieu. Et un réveil dans une nation, c'est la même chose. Je me souviens avoir lu dans le livre de Charles Finet, je ne sais pas si vous connaissez le livre, Les réveils religieux. Il est entré dans un village, puis c'était un homme qui priait énormément. Et quand il se présentait, Dieu lui mettait à cœur des passages. En fait, il se préparait énormément dans la prière et Dieu l'utilisait. C'est un grand revivaliste, n'est-ce pas, aux États-Unis, que Dieu a utilisé grandement pour sauver des milliers de gens. Et il prêchait de tout son cœur. Et un jour, il entre dans un village et il prêche. Dieu le Seigneur lui met à cœur de prêcher sur Sodome, le jugement de Sodome. Les gens du village sont là, ils prêchent, et puis ils parlent de Lot, n'est-ce pas, qui était le seul juge dans la ville, etc. Et tout d'un coup, les gens tombent à terre. Et les gens crient à Dieu de leur pardonner leurs péchés. En fait, le village où il était en train de prêcher s'appelait Sodome. Et la seule personne dans le village qui craignait Dieu s'appelait Lot. Ouais, c'est tout un signe, c'est une vraie histoire. Et cet homme-là a vu, pas simplement dans ce village-là et dans d'autres endroits, des gens se tourner, brisés par la conviction de péché. La conviction de péché est, de la part de Dieu peut être extrêmement puissante. Nous devons prier que Dieu convainc de péché. Et c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu, parce que quand on est convaincu de péché, on a envie d'être guéri, d'être soulagé, et puis on voit les choses comme Dieu le voit. On va regarder verset 10, parce qu'il y a une petite chose anecdotique ici. Il est écrit que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Est-ce que Dieu se repent? C'est une bonne question. On doit faire une différence entre la différence entre la repentance de l'homme et la repentance de Dieu. La repentance de Dieu ici est un anthropomorphisme, comme on dit, de la même façon qu'on dit Dieu a des yeux, des oreilles, des bras. C'est une façon humaine de décrire Dieu dans ses actions pour que ce soit plus compréhensible à nos esprits, êtres humains. Alors, quelle est la différence entre la repentance de l'homme et celle de Dieu? Tout d'abord, l'homme se repent. Et la Bible dit, dans le grec, métanoïa, c'est un changement de mentalité, d'esprit. En fait, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. C'est notamment de voir le péché comme Dieu le voit. Et quand l'homme voit le péché comme Dieu le voit, il veut s'en détourner, parce que non seulement il voit l'esclavage du péché dans sa vie, mais les conséquences du péché, qui est sa perdition. En fait, le réveil, c'est l'action de Dieu ajoutée à la réponse de l'homme. Dieu agit. Mais ce n'est pas tous les hommes qui répondent. Le réveil, c'est l'action de Dieu et la réponse de l'homme. Pourquoi ici il est écrit que Dieu se repent? Comment se fait-il qu'on peut dire que Dieu se repent? En fait, Dieu se repent quand il change sa façon d'agir à cause du changement de situation pour laquelle il agissait au départ. Exemple, il devait détruire Ninive à cause de ses péchés, mais il l'épargna à cause de sa repentance. La nature de Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Mais Dieu peut changer ses actions en fonction de la réponse des hommes ou des situations. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nombre, chapitre 23 et Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et Dieu aurait détruit, on ne sait pas comment, Ninive, si les gens ne s'étaient pas repentis après 40 jours de délai. Dieu aurait agi exactement comme il aurait fait, il n'aurait pas changé, mais ce sont les hommes qui se sont repentis et Dieu a donc changé d'action. Juste un petit peu plus loin, je vous le lis si vous me permettez. Mais c'est frappant de voir cela, il y a une leçon à tirer. Dieu s'est repenti, il a séjourné, ajourné le châtiment sur Ninive. Et pourtant, en Nahum chapitre 3, je vous lis le texte d'un petit prophète, il est écrit au verset 1, « Malheur à la ville sanguinaire ». De quelle ville parle-t-il? De la ville de Ninive. Pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Et un peu plus loin, au verset 3, il écrit « Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables, on tombe sur les morts. » Et finalement, au verset 19, le chapitre 3 de Nahum se termine avec ça « Il n'y a point de remède à ta blessure, en parlant de Ninive, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?» Autrement dit, Dieu a ajourné son jugement vis-à-vis de la vie de Ninive. Mais un jour, il a dû la châtier, 150 ans après, parce que cette ville est retombée dans ses travers de violence, de domination et de cruauté. Il y a un principe ici à retenir. C'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour nous croyants, c'est vrai pour les sociétés entières, des nations. Lorsqu'on tourne le dos à Dieu, après avoir su la lumière, on s'enfonce dans les ténèbres. Et Dieu peut nous laisser aller dans nos sens réprouvés, nous dit Romains chapitre 1. C'est grave de se détourner de Dieu. Quand Dieu a parlé, c'est grâce. Je ne sais pas combien de générations il y a eu exactement après que Dieu ait fait grâce à accorder la repentance, mais dans l'histoire, ils ont perdu cette vision de Dieu, que Dieu était saint et que la méchanceté est un péché qui entraîne un jugement. Et les générations suivantes ont dilué ce message et finalement sont retournées dans le péché au point de se faire détruire entièrement en l'an 612 avant Jésus-Christ. Le livre de Jonas illustre une grande vérité. J'aimerais souligner cela. Voyez-vous, Jésus a passé combien d'années sur terre à enseigner ? 3 ans, hein, Joanne ? 3 ans. Combien a-t-il fait de miracles ? Jean dit qu'il a fait tellement de choses que même un livre ne pourrait pas contenir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Jésus a parlé pendant 3 ans au peuple d'Israël. Jésus a enseigné pendant 3 ans. Jésus a fait de multiples miracles. Il a sauvé les malades, il a guéri les aveugles, il a guéri les sourds, il a chassé des démons. Quel signe ! Savez-vous quoi ? Ninive s'est repentie après un seul signe Jonas, un seul message, une seule prédication. Et Israël, qui a eu le Fils de Dieu pendant 3 ans, de multiples enseignements, de multiples messages, de multiples miracles, ne s'est pas repenti. À croire que le monde païen est parfois plus ouvert à l'évangile que le monde religieux, on va dire. Nous devons veiller à aller de l'avant et puis à croire que Dieu veut nous utiliser pour l'évangélisation du monde. J'aimerais terminer avec ce message en disant ceci. Certainement que Jonas a été le plus grand prédicateur de la terre qui a mené le plus grand nombre de personnes au Seigneur en une seule fois. Malgré lui-même, c'est extraordinaire. Dieu a beaucoup d'humour, je trouve, n'est-ce pas, quand il agit malgré nous. En fait, n'avons-nous pas le même message ? N'avons-nous pas le même Dieu ? Ne pourrions-nous pas, nous aussi, espérer des résultats ? Bien sûr que c'est une histoire particulière où Dieu envoie pour la première fois un prophète dans le monde païen pour amener la conversion de toute une ville. C'est extraordinaire, mais c'était un message que négatif. Repentance, sinon destruction. Mais nous n'en avons pas, nous, le même message, certainement un message d'amour. Et certainement Dieu veut qu'on parle aux gens qui ne connaissent pas Dieu avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et prêcher le pardon de Dieu, mais on doit aussi prêcher le message de la repentance. Et dans notre contact personnel ou prédication publique, veillons à annoncer les jugements de Dieu, parce que c'est une réalité. Jonas avait des excuses, n'est-ce pas, pour refuser d'aller prêcher ce message. Mais nous avons d'autres sortes d'excuses. Nous avons aussi des excuses comme la paresse, le laisser aller, le manque de prise de conscience que le monde est perdu. Je suis trop occupé, je suis trop préoccupé, j'ai d'autres choses à faire. On devient tellement matérialiste et préoccupé qu'on oublie que des gens autour de soi périssent et meurent. Apparemment, notre société se porte bien. Il y a quand même des hôpitaux, il y a quand même des médecins qui nous soignent, il y a des avantages sociaux, il y a beaucoup d'entraide dans une certaine mesure. Il y a l'armée du salut, les restos du cœur. Est-ce qu'on voit vraiment la misère en France ? Soyons réalistes, parce qu'il y a des pays où vous allez aller, où vous allez vraiment voir la misère. Vous allez savoir ce qu'est la misère. En France, on ne peut pas parler vraiment de misère, dans une certaine mesure. Mais les gens autour de nous ont une grande misère. C'est la misère spirituelle. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que nous faisons comme Jonas, sans le déclarer ouvertement, sans prendre un ticket pour aller en Espagne, n'est-ce pas, au moment où il y a une prédication à faire, mais nous avons aussi nos excuses pour désobéir à Dieu. Vous savez, il y a la rébellion active. C'est quelqu'un qui vous demande quelque chose, vous le regardez et dites « non, je ne le ferai pas ». Et vous pouvez aussi avoir une rébellion passive, rien dire et en faire quand même ce que vous voulez. C'est la même rébellion pour Dieu. On n'a pas besoin d'être comme Jonas, se rebeller, être pris dans une baleine, n'est-ce pas, être rejeté sur le bord de la mer pour réaliser « Ah oui, c'est vrai, j'ai désobéi, il faut que j'obéisse à Dieu. » C'est Dieu quand même. Nous aussi, nous avons tendance à désobéir sans nous rendre compte. J'ai fait un petit calcul, pardonnez-moi, mais c'est une façon pratique de terminer ce message. Combien y a-t-il d'habitants à Toulouse et la banlieue ? Bon, Toulouse, 450 000, et avec la banlieue, on va élargir un petit peu. Oh, comment ça? Il faut connaître sa région. Combien? Non. Là. Bon, allez, je vous aide quand même. 950 000 habitants, hein, Toulouse et sa banlieue. Presque 1 million d'habitants. Combien y a-t-il de chrétiens évangéliques à Toulouse? Un peu difficile à déterminer. On va dire 2000. Je fais un calcul, mais c'est peut-être un peu plus. Mais bon, que ce soit 3000, vous allez voir, ça ne changera pas grand-chose dans mon calcul. 2-3 000 chrétiens. Évidemment, en divisant 950 000 habitants par 2000 croyants, ça voudrait dire que pour nous, les enfants de Dieu, si on voulait atteindre Toulouse et sa banlieue, on devrait chacun de nous parler à 475 personnes. Alors vous avez le choix. Si vous décidez une fois par jour, ça prend plus d'une année, parce que 365, donc ça prendra plus d'une année, n'est-ce pas? Maintenant, vous décidez d'annoncer l'évangile une fois par semaine. Et là, ça ne compte pas la croissance de la population entre-temps. Hein. Une fois par semaine, ça va prendre 9 ans. Une fois par mois, ça va vous prendre 40 ans. Une fois par an, cela vous prendrait 475 ans. Donc j'ai le choix de prêcher une fois par an, puis j'atteindrai pas grand monde, une fois par mois ou une fois par jour. Moi, ça m'a fait réfléchir de cette façon, pour visualiser un peu de façon pratique, qu'est-ce que nous avons à faire? Le Seigneur a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Le Seigneur nous dit, allez, lève-toi. Et faites de toutes les nations des disciples. C'est le même message. Bien sûr, ce n'est pas le même temps, mais l'application ici est la même. Nous sommes tous appelés, tous et chacun, à être des missionnaires pour Christ, à partager la bonne nouvelle du salut qui est gratuit dans un monde perdu qui a tellement besoin d'avoir Jésus-Christ. Un seul message, mais quel message? Un seul sauveur, mais quel Seigneur? Et quel zèle devrions-nous avoir pour partager ce message? C'est le temps de Dieu. Un jour, il sera trop tard. Ce n'est pas moi qui le dis. Un jour, il sera trop tard. La porte sera fermée. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous confessons notre désobéissance passive ou active dans ce domaine. Nous aussi, nous te résistons. Manque de prière, manque d'amour, manque de zèle, manque de vision. Les choses du monde nous entraînent et nous ne voyons plus que ce courant l'entraîne dans la perdition. Donne-nous d'aller à contre-courant, de nous lever comme Jonas et de crier le message de Jésus-Christ, de sa bonté, de son pardon, tant qu'il est temps. Fais-le en chacun de nous, Seigneur, et donne-nous la joie d'amener une âme à toi, au nom de Christ. Amen.